Paul disait qu'il pensait mourir, donc il ne plaçait plus du tout sa confiance en lui-même, il a placé en Dieu cette dépendance volontaire, simplement compter sur Dieu, pas sur ses propres capacités, pas sur ses circonstances, pas sur ses dons ni ses talents. Nous arrivons donc à ce que nous sommes appelés à porter comme message. Je dirais l'attitude qui doit caractériser notre service. Il y a plusieurs manières de présenter l'Évangile et la vie chrétienne. On présente, nous les évangéliques, on présente toujours l'Évangile comme étant un don gratuit. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la grâce de Dieu. Et la Bible dit aussi que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre pieusement. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre purement dans ce monde et à attendre le retour de Jésus-Christ dans la pureté et par les bonnes œuvres. Donc, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on est sauvé par la foi seule, mais ce n'est pas une foi qui reste seule. C'est la foi qui nous sauve. Reste seul et ne produit jamais aucune œuvre, on peut se poser la question si c'est la foi authentique. La foi produit des œuvres. La grâce de Dieu produit des résultats. Mais quelquefois, nous sommes dans la culture des résultats. On veut des résultats. Et pour en avoir, il y a plusieurs systèmes. On peut mettre la pression sur les gens, on peut leur mettre la culpabilité dessus. Si vous étiez comme vous devriez être, vous feriez ceci, vous ne feriez pas cela. Vous m'avez déçu, j'attendais autre chose de vous. Quand est-ce que vous allez enfin être spirituel? Et là, parfois, nous mettons nos propres exigences sur les gens. Et les gens disent, ben oui, moi je n'ai pas à cœur de faire ça, mais comme il insiste, ben je vais le faire, quoi. Je ne veux pas qu'il continue à me taper dessus avec ça, donc je vais faire ce qu'il me dit. Mais vous reconnaîtrez que la motivation n'est pas la meilleure, là. Donc, l'apôtre va expliquer comment ces chrétiens se sont convertis, et ce qui les a fait progresser jusque-là, pour leur montrer que ces faux docteurs, ces gens qui sont venus avec tous leurs diplômes et toutes leurs lettres de recommandation et toutes leurs séductions, ne travaillent pas du tout dans le même esprit que lui. Ces gens veulent des résultats, ils ont des exigences humaines. Et Paul n'avait pas d'exigence humaine, il basait son travail sur la grâce de Dieu. Et cette grâce les avait amenés à la foi. Cette grâce les avait amenés au salut. Et cette grâce de Dieu les avait fait progresser jusqu'à un certain point. Et maintenant, ils menacent de tomber sous une sorte de loi, le légalisme, ah oui, qui va faire qu'ils vont se comporter d'une certaine manière. Mais pas avec la même motivation qu'avec la grâce de Dieu. Donc on va essayer de voir ça dans 2 Corinthiens 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose qu'en venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Alors, 2 Corinthiens, évidemment, c'est après 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, c'est la problémologie, tous les problèmes de cette Église, presque un problème par chapitre. Paul donc traite tous ces problèmes-là dans 1 Corinthiens. Et quand les gens ont reçu sa lettre, certains frères dans l'Église estimaient et respecter l'apôtre Paul et ont mis en pratique ses recommandations et certains problèmes de cette église ont été réglés. D'autres n'aimaient pas Paul et ne voulaient pas suivre ses recommandations, mais comme ils ne pouvaient rien trouver de mauvais avec ses recommandations, ils essayaient de contrer Paul en attaquant sa personne, en attaquant ses motivations, en attaquant ses mobiles, ses raisons de travailler. Il disait puis aussi que Paul n'était pas un apôtre. Il disait Paul, c'est un apôtre autoproclamé. Parce que si c'était un vrai apôtre, il nous aurait amené des certificats de recommandation de l'église de Jérusalem. Nous, sous-signés, les 12 apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ vous recommande, Paul né à Tarse à tel jour, telle heure, etc. Et comme apôtre, notre Seigneur Jésus-Christ a posé par nous avec un sceau ce jour de l'an 38 ou comme ça, et comme ça, il montrait ça, là, attention, c'est un vrai apôtre avec une lettre à l'appui, c'est la traçabilité. Hein. On peut retracer d'où il vient cet homme avec cette lettre, ce document. Alors, ces gens qui n'avaient jamais entendu l'évangile avant que l'apôtre Paul ne le rapporte, ces gens qui étaient une église évangélique à cause du ministère de l'apôtre Paul, disent, mais attends, est-ce que tu es un vrai apôtre ou pas, parce que tu ne nous as jamais montré de lettre. Ça c'est un peu comme si vos enfants arrivaient à, je sais pas moi, 10 ou 11 ans, et qu'ils apprennent qu'il y a un livret de famille, etc. Et qu'est-ce qui me prouve que je suis ton enfant? Moi je veux voir les preuves. On va leur dire, allez va te regarder dans un miroir. Tu vas voir que tu es mon enfant, tu me ressembles. Hein? Tu as le nez de ton grand-père, tu as le menton de ta grand-mère, tu as les oreilles de ton père, tu es de la famille, ne t'en fais pas. Hein? Mais ce serait quand même curieux qu'un enfant nous demande les preuves comme quoi nous sommes ses parents. Et il dit, mais comment voulez-vous une lettre de recommandation de ma part? Il dit, vous êtes la lettre de recommandation. Si quelqu'un avait des doutes que je sois un apôtre, si quelqu'un doutait que je sois un serviteur de Dieu, il n'a qu'à venir vous écouter parler. Vous parlez de Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous parlez de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Vous vous réunissez au culte régulièrement. Vous faites des études bibliques, vous faites des réunions de prière. Vous priez les uns pour les autres. Vous lisez la Bible. Vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur. Certains d'entre vous, vous cherchez la sanctification. Votre vie manière de vivre a complètement changé. Vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. Et qui vous a enseigné toutes ces choses-là? Qui vous les a faites connaître? C'est moi. Et vous me demandez une lettre de recommandation. Regardez votre vie transformée. Vous n'avez pas besoin d'autres lettres de recommandation. Vous êtes la preuve que je suis un serviteur de Dieu. Vous pensez bien, quand ces gens-là étaient inconvertis et païens, s'il avait amené une belle lettre de recommandation avec un sceau officiel, ça ne leur aurait fait ni chaud ni froid. Hein.
des païens qui ne connaissaient même pas le judaïsme n'en avaient rien à faire de l'église de Jérusalem. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils n'auraient même pas compris la lettre de recommandation. Apôtre, Kazako, hein, qu'est-ce que c'est un apôtre? On ne sait même pas ce que c'est. Il dit, mais ça ne vous aurait servi à rien. Vous ne connaissiez pas le Seigneur, pas Jésus-Christ, pas la Bible, vous ne connaissiez rien. Maintenant que vous connaissez un peu, vous voulez une lettre de recommandation de ma part? Alors que c'est moi qui vous ai tout appris. Il dit, non, vous êtes la preuve de je suis un serviteur de Dieu. Et donc, on l'attaque. Donc, Paul dit, il va continuer, il ne va pas rester là simplement, vous êtes ma lettre. Il dit, mais comment ai-je fait pour fonder l'église dont vous faites partie, dont vous êtes? Comment ai-je pu arriver à Corinthe et vous annoncer l'évangile et voir cette église se constituer? Quel est le secret? Quel est le message que je vous ai apporté? Quel est donc cet évangile? Quel est donc ce ministère? Et est-il en question? Oh, mais regardez, ce pasteur, ce responsable, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce que son église marche bien, il doit être très doué. Paul dit, c'est pas parce que je suis doué que l'église de Corinthe existe. C'est pas parce que je sais plein de choses que votre église existe. Il dit, je vais vous dire comment votre église a pu exister, comment elle a été fondée. Il dit, par mon service, des vies ont été transformées. Mais comme dit le paragraphe 3 ici, ce n'est pas dû à quelque chose résidant en ma personne. Il dit, ce n'est pas dû à mon instruction, ni à ma connaissance, ni à ma compréhension. Ce succès ne vient pas des capacités de Paul, de ses dons, de ses qualités humaines. Il dit, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu et Dieu seul qui a fait ce travail. C'est dans le verset 4, il le dit en toutes lettres. Et il le dit tellement bien qu'on ne peut pas comprendre autre chose. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Il dit, non seulement ce travail n'a pas été fait par ma puissance, il dit, je ne suis même pas capable de concevoir que ça vienne de ma capacité. Paul pouvait dire, je sais ce dont je suis capable. Vous savez ce dont vous êtes capable? Si vous êtes compagnon du devoir en ébénisterie, on vous demande de faire un escalier tournant, aucun problème, je sais faire ça, je suis expert, je suis à la tête de mon métier. Si on demande à un maître pâtissier, meilleur ouvrier de France, de faire des choux à la crème, il dit, aucun souci, je sais faire ça, je suis un des tout premiers chefs pâtissiers de France, je sais faire, faites-moi confiance. Si vous demandez à quelqu'un de faire l'œuvre de Dieu, et il comprend qui est Dieu, il dit, mais je n'en suis pas capable, et je n'en serai jamais capable. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais chanter? Ah oui, je sais chanter. Je peux même chanter à l'opéra. C'est merveilleux. Est-ce que vous savez parler? Oh oui, je sais faire des discours, mais des discours magnifiques. Est-ce que vous savez être charmant et avenant? Ah oui, 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 oui. Regardez, je suis toujours souriant, avenant, charmant, gentil, attachant, tout ce que vous voulez. J'ai une personnalité vraiment merveilleuse. Alors, vous devez faire l'œuvre de Dieu. Ah, ça non. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu seul qui peut le faire. On pouvait demander à Paul, est-ce que vous avez de la connaissance? Il pouvait dire, j'ai une vaste connaissance. Je connais pratiquement tout l'Ancien Testament par cœur. J'ai été un des élèves les plus lumineux de Gamaliel, un des chefs rabbins de Jérusalem. Ça serait comme deux ou trois doctorats de théologie aujourd'hui. Un homme d'une instruction incroyable. Mais ce n'est pas ça qui a fait l'œuvre de Dieu. Il dit, je ne conçois même pas que je sois capable de faire quelque chose de Dieu, de par moi-même. Il dit, si quelque chose a été fait auprès de vous, Corinthiens, c'est Dieu qui l'a fait. Ne demandez pas mes lettres de recommandation. Il est demandé à Dieu si lui l'a agi dans votre vie.
s'il agit dans votre vie, reconnaissez ça, ça c'est le travail qui s'est fait. C'est la puissance de Dieu dans votre vie qui montre que je suis serviteur de Dieu. Aucun Corinthien ne pouvait dire « Paul nous a éblouis par des discours merveilleux ». Regardez ce qu'il dit lui-même en 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, donc quand il est arrivé à Corinthe, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Donc il dit, je n'avais pas d'éloquence. En tous les cas, il était peut-être éloquent, mais à Corinthe, il n'était pas éloquent. Il le dit. Je ne suis pas venu avec l'éloquence. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cet apôtre qui se permet de craindre et de trembler ? Où est la puissance de Dieu ? Où est sa confiance pour qu'il soit faible et tremblant ? Eh bien, faites-vous battre de verges, comme il a fait faire, enfin, comme il a subi avec Silas, et jeté au fond de la prison à Philippe. Et voyez si vous êtes aussi fiers aussi. Et pensons à Thessalonique, au bout de 3 semaines, on avait une vigilante pour lui ôter la vie, pour le tuer, et il a dû s'enfuir précipitamment, aidant cela par les frères. Il y avait du quoi ? Psychologiquement, et Paul était un homme comme vous et moi, psychologiquement, il était à bout. Émotionnellement, il était, comme on dirait, complètement en compote. Il était, ses nerfs étaient... Il était, vous savez, les gens, après l'explosion à AZF et tout ça, mais j'ai connu des gens qui étaient à côté, mais pendant des mois et des mois et des mois. Un homme que j'ai connu, costaud, jamais montré aucune émotion, pendant un an et demi, à n'importe quel bruit, il pleurait. Il pleurait, mais spontanément. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Ses émotions étaient secouées. Il était émotionnellement troublé pendant des mois et des mois. Et longtemps après qu'il avait guéri, à l'intérieur, c'était encore secoué. Au moins 2 ans avant que ça ne se repasse. Et ça, c'était juste une explosion. Mais là, il a été frappé. Comment dire, son intégrité physique a été endommagé, et ceci après plusieurs autres pendant son premier voyage missionnaire. On comprend son état de faiblesse et de tremblement et de crainte quand il arrive à Corinthe, d'autant plus que tous ses collègues qui l'accompagnaient habituellement n'étaient pas avec lui. Pendant plusieurs mois, il devait rester seul. Il a rencontré Ananias Aquilas et Priscille, avec lesquels il a fait équipe, mais il n'était pas en bon état, franchement. Donc, verset 4, comment il a fait ? Il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Donc, il a dit, « Pas d'éloquence, pas en bon état émotif, et je n'ai pas prêché avec une grande sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il dit une démonstration d'esprit, de puissance. On dit, ah ben ça y est, il a sorti ses miracles. Il a fait des miracles et c'est comme ça que les Corinthiens ont cru. À Corinthe, Paul n'a fait aucun miracle. Il y a eu des miracles à Philippe, il y a eu des miracles à Lystre, il y a eu des miracles dans plusieurs endroits, à Chypre, mais il n'y en a pas eu à Corinthe. La démonstration d'esprit et de puissance, c'était un homme démoli émotionnellement, fatigué et à bout, qui annonce en toute simplicité l'évangile dans une totale dépendance de Dieu. C'était ça la démonstration d'esprit et de puissance. Parfois, nous les enfants de Dieu, pouvons connaître une démonstration d'esprit et de puissance. Nous passons par une terrible épreuve. Mon grand-père, il a perdu sa femme assez jeune, ils avaient bon, la 50aine. Et mon grand-père était là, à côté du cercueil de son épouse, et la famille passait. Oh Franck, tu dois être vraiment démoli. Et Franck disait, merci d'être venu. Je sais, oui, Gertrude, elle est auprès du Seigneur, elle est dans la joie. Je suis consolé. Son frère Robert, quelque temps auparavant, a perdu sa femme. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et quand les gens sont passés, oh Robert, ça te peinait. Il tapait sur le cercueil de sa femme. Pourquoi Dieu, il a pris ma femme? Je suis en colère contre Dieu. Mon père, il avait pas 20 ans peut-être. Il a vu oncle Robert en colère contre Dieu, des larmes de rage. Puis quelque temps après, il a vu son père, des larmes, mais en sourire une paix. La paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit dans sa douleur, ça c'est une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance dans ce passage en tout cas, c'est notre attitude de dépendance de Dieu, notre joie, notre assurance, notre douceur, alors que nous sommes accablés d'épreuves et que nous continuons à servir Dieu dans les circonstances les plus difficiles. Et les gens disent, c'est pas possible. Comment il fait? C'est pas lui, c'est pas humain de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit dans ces circonstances. C'est ça une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que les gens disent, ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être elle. Ça doit être quelqu'un d'autre, ça doit être Dieu. Tiens, ça doit être Dieu. J'aimerais bien avoir ce qu'ils ont. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais l'avoir. Ça, c'est Dieu. Dieu est un Dieu invisible. Mais il se manifeste visiblement à travers nous quand nous restons fidèles et encouragés à travers des circonstances tragiques. Et c'était le cas pour l'apôtre Paul quand il a fondé cette église de Corinthe. Alors, nous revenons donc au chapitre 3 de 2 Corinthiens. Et il va parler maintenant du verset 6 au verset 12 sur cette alliance, cette nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Vous connaissez un peu l'ancienne alliance, le mont Sinaï. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Enfin, vous n'étiez pas là, moi non plus, mais la description qui nous est faite dans la Bible. Vous avez un mont Sinaï, une immense montagne. D'ailleurs, des chercheurs bibliques, des gens qui ont bien lu le texte, qui ont regardé le Moyen-Orient, on dit, c'est pas possible, le mont Sinaï ne doit pas être dans la péninsule de Sinaï, comme on l'a toujours cru, en bas dans le Negev. Ils ont traversé l'autre bras de la mer Rouge, parce qu'à l'époque la mer Rouge, on l'appelait la mer Rouge, les deux bras. Ils ont traversé le deuxième bras de la mer Rouge. Et là, ils ont trouvé des montagnes des deux côtés, et puis un petit chemin qui passait à travers, et puis une plage. Et puis la langue de mer, très profond là et très profond ici, à droite et à gauche, et au milieu, il y a comme un pont qui est juste sous la surface de l'eau, pas très loin. Un pont sous l'eau. Et on voit bien que c'est là qu'ils ont dû traverser la mer Rouge, parce que sur ce pont sous l'eau, vous avez des grandes roues de chars qui sont tout au long, que l'on peut voir encore aujourd'hui. C'est là qu'ils ont traversé la mer Rouge, et de l'autre côté, c'est le Yémen, Madian, si vous préférez, là où Moïse a passé 40 ans avec les brebis. Un peu plus loin, vous avez une montagne qui sort pratiquement comme une grande plaine, et une montagne qui sort de la plaine, comme si elle avait été posée là par une main géante. Et tout le haut de la montagne est cramé, brûlé, noir, carbonisé. Et à côté, il y a comme un énorme plateau, comme une grande table, plate comme une table, assez haute. Et on voit bien, et il y a une grande plaine autour où les gens pouvaient, on voit bien que c'est dans le Yémen, dans ce coin-là, au-delà de ce deuxième bras de la mer Rouge, que Dieu a donné la loi au mont Sinaï. C'est ça le mont Sinaï. Et cette montagne, Dieu l'a embrasé dans le feu. Il a parlé, mais il a parlé tellement fort que le peuple devait voisiner les 2,5 millions de gens. Ils ont dit, demande à l'Éternel de ne plus nous adresser la parole. Nous ne supportons pas le son de sa voix. C'est-à-dire, la voix était tellement forte que, vous savez, à l'intérieur, ça tremblait. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient démolis psychiquement par la puissance de la voix. Et Dieu a fait monter Moïse pour lui donner les deux tables de la loi, etc. Vous connaissez. Mais c'était ce que Paul dit ici. Quand Dieu a donné la loi, c'était quelque chose de glorieux, quelque chose d'immense, quelque chose dont on ne pouvait jamais, jamais oublier. Dieu a montré, il a sorti les grands moyens, on va dire. Et Dieu a voulu les impressionner. Il leur a dit, à Moïse, dis aux gens de ne même pas toucher la montagne. Alors vous dites, toucher la montagne, comment? Mais la montagne, où est-ce qu'elle commence? Une montagne, où est-ce qu'elle commence? Qui veut dire toucher la montagne? Mais faites le mont Sinaï, mais vous avez la plaine, et puis tout à coup, fou, c'est la montagne. Ça monte comme ça. Vous êtes devant, vous touchez la montagne, vous ne touchez pas la montagne. C'est comme ça. Et il dit, ne touchez pas la montagne, celui qui touche la montagne, il meurt. Parce que Dieu est sur la montagne. C'est comme si tu as mis 100 millions de volts dans tous les montagnes. Dès que tu touches, tu meurs. C'était fait exprès. Dieu voulait leur montrer sa puissance et sa gloire quand il a donné ses exigences morales et spirituelles dans les 10 commandements. Il voulait leur faire comprendre que ces 10 commandements viennent d'un Dieu tout puissant et terrifiant. Et il les a terrorisés. Alors, il veut parler de ça. Et donc, regardez bien, verset 7. Il appelle, quand Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. C'est les 10 commandements, n'est-ce pas? Pourquoi il dit, les 10 commandements, c'est le ministère de la mort? Imaginez, en France, on est le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice et le ministère de la mort. Ça fait froid dans le dos, le ministère de la mort. On tient les ministres dans le ministre de la mort. Là, on ne voudrait même pas aller dans les réceptions. On a peur que les gens tombent comme des mouches. Le ministre de la mort qui se pointe. Qu'est-ce que c'est que le ministère de la mort? Eh bien, le ministère de la mort, excusez-moi, c'est donner 10 commandements que personne ne peut observer. Vous donnez 10 commandements que personne n'arrive à observer. Et si quelqu'un manque à un seul de ces 10 commandements, il est coupable des 10. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une chaîne et que vous étiez suspendu dans le vide. Et on dit, il y a la chaîne est bonne sauf un maillon qui est en caoutchouc. Vous êtes prêts? Vous n'avez pas besoin que tous les maillons soient en caoutchouc pour tomber. Un seul, ça suffit. C'est la mort assurée. Et les 10 commandements sont magnifiques si on arrive à les observer tous et tout le temps. Mais si on manque dans un seul, une seconde, on est perdu. Donc, les 10 commandements ne peuvent donner que la mort. N'importe quel être humain, devant les 10 commandements, le verdict tombe, clair, tu es coupable. Tu es coupable. Mais, c'était, quand Dieu l'a donné, c'était avec beaucoup de gloire. Quand Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait. Et c'était tellement brillant qu'on l'a demandé, on ne lui a même pas regardé le visage de Moïse, il a mis une voile devant son visage pour que les gens ne voient pas son visage parce qu'il avait été pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Mais son visage brillant derrière ce voile n'a pas brillé à perpétuité, ça a brillé quelque temps et après le côté radieux s'en est allé. Donc c'était pas permanent, c'était passager. C'était glorieux, mais c'était passager. Et verset 9, le ministère de la condamnation. Ministère de la condamnation, ministère de la mort, c'est la même chose. La loi condamne. Et donc, le ministère de la justice, ça c'est la nouvelle alliance,
Et donc verset 10, il dit même toute la gloire du mont Sinaï, la voix de Dieu, la montagne qui tremble, le feu qui va partout, les gens terrorisés, toute cette gloire, cette magnificence, cette épreuve de puissance de Dieu, tout ça, il dit, ce n'est même pas glorieux à côté de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cette nouvelle alliance? Si c'est encore mieux que le mont Sinaï, si c'est encore plus glorieux qu'une montagne qui tremble avec des flammes de l'Éternel et une voix et une trompette, si c'est plus glorieux que ça, qu'est-ce que ça doit être? Regardez, Jérémie 31. Quand on habite en Haute-Garonne, qui est le département numéro 31, ça aide parce que c'est Jérémie 31. Comme ça, vous n'allez pas l'oublier. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis pour la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, ça c'est les 10 commandements, il dit ils ont violé cette alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » L'apôtre, en 1 Corinthiens chapitre 3, dans lequel nous sommes, il dit, le ministère des 10 commandements, c'était glorieux, c'est vrai. Mais c'est un ministère de condamnation et de mort. Les 10 commandements ne sauvent personne, parce que personne ne peut les mettre en pratique. Il dit, le ministère de la nouvelle alliance est beaucoup plus supérieur en gloire. En quoi c'est tellement merveilleux, cette nouvelle alliance? Regardez bien. D'abord, le verset 34, la fin du verset 34. « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Les 10 commandements disent « Ne péchez pas. Si vous péchez, vous êtes condamné. Point. » Alors, je suis condamné. Parce que j'ai péché, je pêche et je pécherai. Je suis condamné. La nouvelle alliance dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et je les pardonnerai. Ouf, il y a de l'espoir. J'ai péché, Dieu peut me pardonner. La nouvelle alliance est bien meilleure que l'ancienne. La deuxième chose, verset 34, verset 33, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Dieu dit, mes exigences, ma volonté, je ne vais pas évidemment les afficher sur un mur quelque part, pour que les gens prennent conscience. Je vais le mettre moi-même dans leur cœur. Dieu dit, par la nouvelle alliance, en recevant Jésus-Christ, le Saint-Esprit va vivre en nous, et nous allons savoir ce que Dieu veut. À un vrai enfant de Dieu, quand on dit « Fais ce que Jésus voudrait que tu fasses », il sait instinctivement ce que Jésus voudrait qu'il fasse. Parce qu'il a une nouvelle nature. Et le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin de lui dire, il le sait ce que Dieu veut qu'il fasse. Quand on est du jeune, mon père a dit « Écoutez les garçons, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Je ne sais pas ce que vous devez faire. » Vous devez demander à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et il faut que vous sachiez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et que vous allez me le dire quand vous le saurez.
et vous n'aurez pas de problème ni avec moi ni avec votre mère. Tout ce qu'on veut, c'est que vous fassiez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous appartenez à Dieu. C'est merveilleux d'être élevé dans cette pensée-là, et chacun est allé dans une autre direction, mais chacun convaincu que c'est la volonté de Dieu. Et de la même manière ici, pour prendre nos décisions, pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions, pour savoir ce que nous devons dire, on n'est pas obligé d'aller que quelqu'un nous dicte ce qu'on doit dire. Parfois, les gens appellent le pasteur pour du conseil, et ça c'est très bien. Parfois, on peut avoir du conseil les uns aux autres, mais ça reste du conseil. Pourquoi? Parce que Dieu est dans votre cœur. Demandez-lui. Je l'écrirai dans votre cœur. Et verset 34, donc, tous me connaîtront. Tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance connaissent Dieu personnellement. Et c'est pour cela que dans nos églises, on n'a pas de prêtres, on n'a pas de gens qui servent d'intermédiaire entre nous et Dieu. On a des pasteurs, bien sûr, qui enseignent la parole. Mais chaque chrétien doit prendre cette parole et l'appliquer à sa vie, et ça c'est son travail. Attention, si le pasteur ou le responsable vous dit toujours ce que vous devez faire, plutôt que de vous enseigner ce que dit la parole. Faites ce que Dieu vous demande. Et ça, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est pas tu es sauvé par grâce, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. C'est pas question de faire ce qui nous plaît. La nouvelle alliance, c'est faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est prendre sa parole et l'appliquer par son esprit à notre manière de vivre. L'un dira, peut-être, je suis barman, je sers l'alcool aux gens, je les vois s'enivrer devant moi, je veux progresser dans ma vie chrétienne. Et à mesure que je prie, Seigneur, montre-moi ta volonté, il me montre de plus en plus qu'enivrer les gens pour gagner ma vie ne va pas contribuer à ma sanctification, c'est d'ailleurs tout le contraire, malheur à celui qui donne à boire à son pot. Je pense que c'est un autre travail. Si je vous dis, si tu es barman un jour de plus et que tu n'es pas sauvé, il va dire, ah, le pasteur m'a dit qu'il fallait plus que je sois barman. Donc je vais changer, parce qu'il m'a dit, le pasteur m'a dit, donc il faut que j'obéisse à mon pasteur. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est des exigences de la loi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je n'en sais rien, mais il faut que j'obéisse à mon pasteur. C'est un problème, n'est-ce pas? Si vous êtes le pasteur, je vous plains. Parce qu'il va appeler, oui, donc, j'ai trouvé notre travail, tu penses que je peux être serveur dans un restaurant, voilà, c'est une pizzeria, oui, là, alors bon, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu en penses, il faut que tu viennes voir la pizzeria pour voir si tu penses que je peux, et puis, il faut que j'achète une brosse à dents, mais je ne sais pas, le dur, le souple, qu'est-ce que mon pasteur, il m'a... L'entend dans une dépendance enfantine et très grave. Je fais parce qu'il m'a dit, non. Non. La nouvelle alliance, tu as une relation avec Dieu. Fais ce que Dieu te montre. C'est ça la nouvelle alliance. Je vais écrire ma loi dans leur cœur. Alors regardez le verset, on va revenir en Corinthiens chapitre 3. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. La nouvelle alliance, la grâce n'est pas je fais ce qui me plaît. La grâce, c'est je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et il me le montre par son esprit. Alors parfois on rencontre les gens, je les rencontrais beaucoup. Oui, depuis quelque temps, je vis avec ce jeune homme, c'est vrai qu'on n'est pas mariés, mais je me sens très près de Dieu, hein. Alors je suis vraiment dans la volonté de Dieu. Problème. Quel est le problème? Quel est le problème? Mais la parole est le contraire. La parole de Dieu ne contredit jamais la volonté de Dieu. Et à ces gens-là, on peut dire, mais si tu crois le Dieu de la Bible, tu verras que le concubinage n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Seul le mariage est l'institution donnée par Dieu pour deux personnes. C'est écrit partout dans la parole de Dieu. Si tu es en paix avec Dieu, ce n'est donc pas le Dieu de la Bible. Car je l'écrirai dans leur cœur ne veut pas dire que vous avez la Bible online dans votre mémoire et que Dieu vous a chargé ça sur votre disque dur. Ça veut dire que je me réfère, j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est sa parole qui me guide. Comment commencent les sectes pernicieuses? On enlève tout support écrit, sauf les écrits qui viennent du gourou. On lit ces écrits-là. On écoute le gourou. C'est le gourou qui a pouvoir sur ma vie. C'est le gourou qui doit prendre toutes mes décisions. C'est le gourou qui doit me conseiller et qui je dois faire tout ce qu'il me demande. C'est lié à un homme. La parole de Dieu, c'est un serviteur du Seigneur qui ouvre la parole de Dieu sous l'œil attentif de ses auditeurs, qui, comme les Bériens, doit bien regarder pour voir si ce qu'il dit est vrai. J'ai une responsabilité aujourd'hui de dire ce que dit la Bible, et Dieu me jugera. Mais Dieu jugera aussi. Si vous dites « Timmy l'a dit ça, donc c'est manifestement ce que Dieu veut », il y a un problème. Si c'est Dieu qui le dit dans sa parole, si c'est moi qui le dis et que j'ai fait une erreur, vous ne pouvez pas vous cacher derrière moi, même si je répondrai pour cette erreur devant le Seigneur. Vous avez le moyen de savoir ce que Dieu veut par sa parole et vous avez le même esprit que moi. Nous avons le même esprit et le même éclairage dans la parole. Et donc, il dit, c'est ça. C'est pour ça que vous avez progressé, parce que le Saint-Esprit habite en vous, vous avez la parole de Dieu, vous êtes dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vous a conduit, tout ce que vous avez progressé réellement dans votre vie spirituelle, ça a été fait par Dieu, ça n'a pas été fait par moi, dit Paul. Je vous ai enseigné, mais c'est Dieu qui vous a vraiment fait connaître. Attention aussi, quand vous trouvez ces chrétiens qui disent « Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu par un homme. » De toute façon, les hommes, ils sont tous faillibles et pas savoir s'ils disent des âneries aussi. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. D'ailleurs, il y a un verset quelque part qui dit « Son onction vous enseigne toutes choses, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Vous connaissez ce verset en 1 Jean ? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, son onction vous enseigne toutes choses. Il y en a quelques-uns qui ont dit, c'est pas la peine d'aller à l'église, la Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ce serait curieux que le Seigneur ait établi des églises dans le Nouveau Testament et qu'ailleurs ils disent, vous n'avez pas besoin de ces églises parce que c'est son esprit qui vous enseigne toutes choses. La Bible donc se contredit. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Par exemple, pendant cette semaine, je peux dire beaucoup de choses différentes. J'espère qu'elles seront toutes justes et j'espère qu'elles seront toutes bonnes pour vous. Mais qu'est-ce que vous allez vraiment capter? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que moi je vais apprendre? Ça va être ce que le Saint-Esprit nous aura fait comprendre, ce qu'il va avoir utilisé pour toucher nos cœurs, ce qui va entrer dans nos cœurs comme quelque chose de profond. Maintenant, on peut entendre 100 choses qui sont vraies, mais peut-être on va capter et mettre en pratique 10. Nous avons donc besoin de l'enseignement. Mais nous n'apprenons réellement que ce que l'Esprit Saint nous enseigne. Si nous sommes vraiment ouverts, le Saint-Esprit pourra nous enseigner plus que si nous sommes plutôt fermés. Si le Saint-Esprit est attristé dans notre âme, il ne pourra pas nous enseigner. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui sont pendant des années dans une église, qui écoutent la parole pendant des milliers d'heures et qui n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien, ils ne progressent pas parce qu'ils ne sont pas ouverts et l'Esprit ne peut rien leur enseigner, alors que des hommes leur ont exposé beaucoup de choses, mais ils ne permettent pas à l'Esprit d'enseigner. C'était le cas pour ces Corinthiens. À ce moment-là, beaucoup d'entre eux étaient vraiment au point mort. C'est pareil dans l'Épître aux Hébreux. Il dit, vous devriez en être maintenant à l'état d'adulte, vous êtes revenu dans l'enfance. Parce que si on ferme son cœur, on fait même marche arrière. On devient de plus en plus bête spirituellement. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et donc, Paul dit, ce que vous avez appris de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous l'a enseigné. L'Esprit tue, la lettre tue et l'Esprit vivifie. Là aussi, permettez-moi de toucher à un verset qui est vraiment utilisé à tort et à travers. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Certains évangéliques pensent que c'est pas la peine d'étudier la Bible parce que la lettre tue, mais l'Esprit... Et alors, vous imaginez, mais dans l'Esprit, vivifie, et je veux cette expérience, et tout cela. Encore une fois, vous prenez un texte hors de son contexte, ça devient un prétexte. On l'a souvent dit, et c'est vrai. Le contexte ici, c'est la lettre de la loi, les 10 commandements. Les 10 commandements tuent. N'importe quel être humain, face aux 10 commandements, est coupable et est digne d'aller en enfer. La lettre de la loi tue, condamne. L'Esprit de Dieu qui entre en nous par l'Évangile, par la nouvelle alliance, nous donne une vie. Aucun de ceux qui ont écouté les 10 commandements n'ont été convertis en écoutant les 10 commandements. Mais ceux qui ont entendu l'Évangile, qui l'ont reçu comme sauveur, qui ont reçu l'Évangile comme la parole de Dieu, se sont convertis à Dieu et leur vie a changé. Les gens qui ont reçu les 10 commandements, avant même que Moïse ait le temps de descendre de la montagne, qu'est-ce qu'ils avaient fait? En veau, en or, et commencé à danser et faire la fête, et ce n'était pas une fête divine. Ils avaient entendu la voix de Dieu et rien n'avait changé dans leur cœur. Ils étaient aussi païens après qu'avant. Seulement la loi les condamnait. Donc, il y a deux sacerdoces. Il y a l'ancien sacerdoce et le nouveau. L'ancien, bien sûr, c'est celui d'Aaron. Regardons en Hébreux chapitre 7. Verset 11, nous sommes dans le contexte des 10 commandements. Il y avait des sacrificateurs, dont Aaron était le premier. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Ce qui marche bien, vous ne le changez pas. Si vous achetez un nouveau frigo et la semaine d'après on vient vous vendre un nouveau frigo, vous dites, je n'ai pas besoin de votre frigo, j'ai un frigo neuf, ça va bien. Mais si votre frigo a 25 ans est tombé en panne depuis 3 ans et ne refroidit plus rien, on vous propose un nouveau frigo, vous l'achetez parce que vous en avez besoin. Si le sacerdoce lévitique avait été vraiment valable, Dieu n'aurait pas proposé de le remplacer par un autre sacerdoce. C'est que ce sacerdoce lévitique était défectueux. Regardez verset 18. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure, ça c'est les 10 commandements, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord ? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. D'accord. Tu garderas le sabbat. Ok. Tu ne tueras pas. D'accord, ça c'est acquis. Tu ne convoiteras rien. Ok. 3 jours passent. Alors, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as aimé l'Éternel à chaque seconde de ton existence, des pouvoirs, de tous les pouvoirs de ton être, sans jamais manquer une seconde d'adoration? Oh ben non, ça fait 3 jours, je n'ai même pas pensé à l'Éternel. Échec. Est-ce que tu as vraiment aimé ton prochain comme toi-même? Ah ben non, pas vraiment. Échec. Est-ce que tu as convoité quoi que ce soit qui appartient à autrui? Et oui, 3 ou 4. Échec. Bon, ça fait 3 sur 10, déjà, ça ne parle pas d'aller plus loin, tu es condamné. Le fait de mettre des lois en place ne change pas les gens. Ça ne fait que les condamner. Et Et il dit, donc, pour amener à la perfection, on ne peut pas compter sur les 10 commandements. C'est inefficace. Et donc, comme on ne peut pas être parfait par le sacerdoce lévitique, ce n'est pas la peine de le garder. Il faut faire un changement. Un changement de loi, verset 12. On a changé la loi. Regardez verset 16. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Il y a une autre loi, la loi de la vie de Jésus-Christ, la vie impérissable de Jésus-Christ. Quelquefois, quand j'étais plus jeune, je faisais un peu d'évangélisation dans la rue et on faisait un dessin pour montrer aux gens l'évangile. Et l'un des dessins était celui-ci. Dans un coin, on avait une pomme, une belle pomme rouge. Dans le coin en face, on avait le Concorde. C'était à l'époque qu'on avait le Concorde. Tout le monde le reconnaissait, on dessinait ça. Bon. En bas, on avait un pied avec une chaîne et un boulet. Et en bas, dans l'autre case, on avait trois collines et trois croix. Et l'idée, c'était de commencer avec la pomme. Quand la pomme est tombée sur la tête d'Isaac Newton, au lieu de juste manger la pomme, il a réfléchi pourquoi la pomme est-elle tombée sur ma tête plutôt que de monter. Mais c'est la loi de la pesanteur. Et la loi garde toutes les choses sur la terre, sur la terre. Mais on a inventé le Concorde, entre autres avions. Et le Concorde fait appel à la loi de l'aérodynamique. En faisant passer plus d'air ou de l'air plus vite sous les ailes que sur les ailes, on arrive à échapper temporairement à la loi de la pesanteur et on peut quitter le sol et s'élever dans l'air. La loi de l'aérodynamique nous permet d'échapper aux effets de la loi de la pesanteur. Moralement, c'est la même chose. La loi de Dieu nous dit d'être parfait, nous donne des commandements, mais nous n'avons jamais pu les observer. Et pourquoi n'arrivons-nous pas à observer les 10 commandements? Parce que nous avons une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse, nous la traînons comme un boulet. On dit maintenant c'est fini, je ne pêche plus et je veux courir, on a ce boulet. On a beau vouloir, inexorablement on pêche. On n'a pas la possibilité de s'en libérer. Ça c'est la loi du péché. Mais pour échapper à la loi du péché, il y a une autre loi, la loi de la vie. La loi de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est sur la croix de Jésus qu'il a donné sa vie. Il est ressuscité et il peut vivre en nous. Parfois on le chante, je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Vous connaissez ça? Les 10 commandements, c'est sur 2 tablettes de pierre. C'est des commandements magnifiques. Ils sont justes, ils sont tout à fait louables, mais inefficaces pour nous aider à vivre. Mais le cœur de Jésus, Jésus vivant en nous par son esprit, nous permet de dire non à la tentation et de nous sanctifier, de nous purifier et d'avancer. Et Paul dit, je vous ai annoncé Jésus-Christ. C'est la vie impérissable. C'est la nouvelle alliance basée sur un meilleur médiateur, basée sur un meilleur sacrifice, et c'est le sang de Jésus. Alors, je peux vous parler de 2 manières ce matin. Je peux vous faire un discours religieux. Je pourrais vous dire, mes amis, vous connaissez la loi de Dieu. Est-ce que vous la trouvez bonne? Est-ce que vous trouvez les 10 commandements bons? Vous dites oui, ils sont très bons. Bon, maintenant, je vous engage à vivre selon les 10 commandements. Combien ce matin prennent l'engagement, à partir de maintenant, je promets à Dieu que je ne vais plus jamais briser l'un des 10 commandements. C'est maintenant promis, solennellement devant Dieu, je vais aimer Dieu de tout mon cœur. Levez votre main et prenez cet engagement. Avant ce soir, je vois quelqu'un qui, à la réunion ce soir, Christophe, ta main était levée à midi et demi pour prendre cet engagement. Cet après-midi, j'ai vu que tu regardais quelqu'un un peu de travers. Tu ne l'as pas aimé comme ton prochain, comme toi-même. Nous te condamnons aujourd'hui, mes amis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour condamner Christophe à cause de ce qu'il a fait? Maintenant, tu dois quitter le centre de vacances. Tu ne peux plus rester. Tu es hors jeu. Tu as désobéi. Tu as rompu ton engagement. C'est une manière de vivre. Est-ce que c'est une manière de vivre qui va nous aider à progresser spirituellement? Non. Et on va être là. Bonjour, ça va? Je le déteste, mais je n'ose pas dire parce que j'ai pris l'engagement de... Ça va nous amener à l'hypocrisie. Ou alors, donc les gens sont intimidés parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que nous leur exigeons. Et on dit, bon, mais alors, vous n'avez pas réussi, mais prenez un autre engagement, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein, t'as compris, Christophe, hein, ce soir, tu recommences. Hein, et puis, on va tous être autour de lui pour le surveiller, pour être sûr qu'il fait ce qu'il faut. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide, 3 fois par jour, tu viens me voir et tu me dis tous les péchés que tu as commis. Et on va faire des notes, prendre des notes. Et tu vas me rendre des comptes. Hein, quoi? Donc, voilà. Et on va rendre des comptes les uns aux autres pour être sûr qu'il est venu me voir 2 fois et la 3e fois, il n'a pas voulu me voir. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas voulu me voir, donc il est en position de culpabilité. Il faut que je le poursuive. Reviens ici. Je ne veux pas. Si, tu me rends des comptes. Attention. Attention. Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Faire de la police, etc. Paul dit non. Amenez-les vers le Seigneur. Je vous ai amené vers Jésus. C'est entre Jésus et toi. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu veux lui plaire? Est-ce que tu veux le glorifier? Tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Compte sur lui. Ce n'est pas envers moi que tu réponds. C'est envers le Seigneur. Ça, c'est traiter les gens comme des adultes. Et c'est comme ça qu'ils progressent. Et donc, Paul dit, Dieu nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Nous collaborons avec l'Esprit de Dieu. On amène les gens à la maturité. C'est merveilleux, cette manière de travailler. Et donc, quand les gens viennent, oh, vous savez, j'ai péché, je crois que je ne suis pas digne de Dieu, dites-leur, mais tu n'es pas digne de Dieu. Et moi non plus. Et tu ne seras jamais digne de Dieu. Et moi non plus. Mais à travers la nouvelle alliance, Dieu a dit qu'il ne se souviendrait pas de tes péchés. Dans la mesure où tu les confesses, tu peux prendre un nouveau départ avec l'Esprit de Dieu. Et nous, on est là pour t'entourer, pour t'encourager, pour te montrer une bonne voie, mais pas pour te diriger, pas pour être un dictateur, mais un accompagnateur. Bien que Dieu nous bénisse et que Dieu nous permette d'utiliser cette nouvelle alliance pleinement dans notre travail auprès des autres. Notre Dieu et Père, merci pour l'enseignement de ta parole, merci pour sa fraîcheur, merci pour son actualité, car nous sommes en plein dedans dans notre vie de tous les jours. Permets-nous d'apporter la vie, la joie, la paix, et non pas la condamnation, non pas les exigences humaines, mais l'exigence que toi tu donnes à travers ta sainte et précieuse parole. Par Jésus-Christ. Amen. Amen.